Merci beaucoup à vous d'être venus si nombreux pour écouter Jean-Pierre Filiu, qui nous a fait le plaisir, l'immense honneur de venir à la fois faire une présentation des mouvements qui nous ont tous interpellés en France comme ailleurs, et qui continuent à nous poser tout un tas de questions. Donc je ne dresserai pas le portrait exhaustif de la carrière de Jean-Pierre Filiu, rappelant simplement que professeur à Sciences Po et à Rabizan, il enseigne aussi très régulièrement aux États-Unis, notamment à l'Université de Columbia et de Georgetown. Et il a été particulièrement remercié et félicité pour son ouvrage « L'Apocalypse dans l'Islam », grand prix notamment des rendez-vous de l'histoire à Blois en 2008. Donc si vous voulez bien, en fait, Jean-Pierre Filiu va faire une présentation d'environ 30 minutes, 40 minutes sur ce vaste sujet. Et puis, à l'issue, nous aurons le plaisir de répondre, enfin, Jean-Pierre Filiu aura le plaisir de répondre à vos questions, qu'on espère nombreuses, sur toutes les thématiques qui appellent ce mouvement important. Voilà, je laisse la parole à Jean-Pierre Filiu.
Bien, ben écoutez, merci beaucoup. Je vais m'asseoir, si ça ne vous embête pas. Donc, merci à Valérie Bouissot, merci à la BPI de me donner le plaisir d'intervenir sur ce sujet qui, effectivement, je crois, nous interpelle tous dans ce qu'on peut avoir de plus intime pour beaucoup d'entre nous. Moi, je ne peux pas commencer l'évocation de ce qui se passe actuellement dans le monde arabe sans évidemment parler de la Syrie et du martyr du peuple syrien qui continue jour après jour. Si vous avez lu Libération ce matin, je ne ferai aucun commentaire. Il se trouve que mardi, donc avant-hier, j'ai encore recueilli un témoignage supplémentaire de toutes ces horreurs, et j'avoue, moi j'ai vécu 3 ans en Syrie, que j'ai encore du mal, non pas à accepter l'horreur, la sauvagerie, la cruauté de ce régime abject et barbare, mais sa capacité d'invention dans la torture. Et ce qu'on m'a raconté mardi soir, c'était quelqu'un qu'on voulait faire passer à la télé pour accuser les fameuses bandes terroristes, salafistes, qui n'existent que dans l'esprit des turiféraires du régime. Et cette personne, il se trouve que c'est un acteur assez connu, dont je ne mentionnerai pas son nom. Et donc, pour le faire plier, on l'a enfermé dans un cercueil cloué pendant 7 heures. Et ça me paraît, au-delà de l'horreur de la torture en question, au fond, une image assez précise de ce qu'était le monde arabe avant cette révolution. Alors moi, je n'utilise pas le terme de printemps, même si je sais qu'on ne l'utilise pas uniquement dans un terme de saison. C'est la référence au printemps des peuples de 1848, vu comment tout ça a tourné. Au moins dans les années qui ont suivi 48, ce n'est peut-être pas la référence la plus porteuse d'espoir. Mais on voit très bien que dans un certain nombre de gazettes, eh bien, le printemps sert à annoncer l'automne et l'hiver et à refermer le plus vite possible un cycle qui, au fond, en a dérangé beaucoup. Et donc, bah, vous voyez, printemps arabe, automne islamiste, hiver intégriste, vous avez tous lu ça, ce n'est que du prêt-à-penser pour des paresseux et des idéologues. La réalité, en tout cas l'interprétation que je vais essayer de partager avec vous ce soir, comme historien, c'est que nous sommes face à une révolution, que je qualifie de révolution arabe et que je mets au singulier, ce qui ne signifie pas, loin de moi, cette idée qui serait tout à fait erronée d'affirmer qu'il y aura des révolutions partout. Je pense même le contraire. Mais il y a une dynamique révolutionnaire pour l'ensemble du monde arabe, du Maroc jusqu'au Golfe, qui est portée, je vous décris en quelques lignes ma thèse, puis après je vais la développer pendant une demi-heure, 40 minutes avant qu'on passe aux questions. Et donc cette révolution arabe au singulier, elle est portée par une jeunesse d'une centaine de millions de femmes et d'hommes qui considèrent tout simplement que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue sous ce régime, sous ce système. C'est le même mot en arabe, c'est « nizam ». Et le slogan de cette révolution, et comme historien je ne suis pas capable de vous dire le jour où il a été proféré pour la première fois et où, en revanche je sais qu'assez tôt il était prononcé dans plusieurs pays et dans des dizaines d'endroits en même temps, et c'est « Eshab yurid iskot nizam ». Bon, je ne vais pas vous le faire scander, mais je peux vous dire que c'est assez lancinant et entraînant au bout d'un certain temps, surtout quand il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui le scandent en même temps. Et ça veut dire « le peuple veut renverser le régime ou le système ». Il ne veut pas que le régime ou le système tombe tel un fruit mûr, il veut que ce soit lui qui le renverse. Ce qui est, me semble-t-il, une définition assez précise d'un processus révolutionnaire. Alors ce slogan qui s'est répandu dans tout le monde arabe, il a pu être adapté ici ou là. On a vu au Maroc, Echarb Yurid Iskot El Fassad. Le peuple veut que la corruption tombe. Il veut renverser la corruption. En Jordanie, Echarb Yurid Islah El Nizam. Le peuple veut réformer le régime. Les forces d'opposition n'étant pas dans une situation et une ambition révolutionnaire à ce stade. Au Liban, Echarb Yurid Iskot El Nizam Ta'ifi. Le peuple veut renverser le système confessionnel, vu qu'au Liban, il ne s'agit pas de changer le président de la République. On sait bien que ça aurait un effet absolument nul sur l'état du système politique libanais. Et puis, on a vu en Palestine, en commençant par Gaza, Echarb Yurid Inhal Inkisam. Le peuple veut la fin de la division. C'est-à-dire, le peuple veut la réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Donc, on voit effectivement, déjà dans l'adaptation du slogan, que cette révolution, même si je la mets au singulier, c'est une saoura, c'est le mot en arabe pour révolution, qui trop souvent est traduit par révolte. Depuis la Saoura Arabiya qu'on accole trop souvent à Laurence d'Arabie par notre occidentalocentrisme, comme si les peuples arabes, après tout, ils avaient attendu que le fringant Laurence vienne leur expliquer comment se soulever. Et donc depuis cette Saoura de 1916, on traduit Saoura par révolte. Eh bien c'est une révolution. Et les peuples arabes, ils peuvent aussi faire la révolution, et ils le montrent jour après jour sous nos yeux. Alors je ne crois pas qu'il y aura des révolutions partout, mais je crois qu'effectivement, nous sommes dans l'an 1 de la révolution arabe, nous ne sommes qu'au début d'un mouvement historique de très grande ampleur, qui ne fait que commencer, et que tout jugement hâtif serait par définition erroné. Et qu'il faut, et ça c'est l'historien qui tente cette démarche devant vous, s'enfiler, il faut retrouver le temps long, malgré la pression médiatique qui voudrait que chaque événement occulte le précédent, et que un cycle aussi formidable puisse trouver une conclusion en quelques mois, qu'on pourrait ainsi mettre en boîte et ne plus y toucher. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il n'y aura pas d'effet domino. Je n'utilise même pas le terme odieux de contagion. Ni d'entraînement mécanique d'un pays à l'autre. Mais la rupture est profonde avec toute une culture du leader charismatique, alors qu'émerge une forme inédite d'autodiscipline citoyenne. Avant, c'était simple pour les observateurs, les analystes et différents intermédiaires. Il y avait une tête, donc fallait être bien avec la tête, fallait comprendre la tête et le petit cercle, la petite clique qui tournait autour de la tête. Ben, c'est fini. 42 ans de Kadhafi en Libye, c'est fini. Maintenant, il y a la Libye dans toute sa diversité. Alors, c'est un peu plus stimulant comme défi intellectuel. Parce qu'il faut... On ne peut pas s'en sortir avec un trombinoscope sur une page. Il va falloir connaître beaucoup de gens. Et puis, des gens vont apparaître, vont se mettre en retrait, vont revenir. Il y aura tout un nouveau personnel politique. Il y aura toute une série de processus de transition, d'élections, d'alternance, qui feront qu'effectivement, les gens qui avaient investi pendant tant d'années dans la psychologie, l'étude de Moubarak, d'Assad et autres, ben ils auront un peu de mal à se reconvertir, parce que ça ne se passera plus jamais comme ça. Hein ? Focaliser aujourd'hui sur un leader ou sous un autre ne permet plus du tout de comprendre ce à quoi nous assistons. Parce que maintenant, nous avons des mouvements d'une grande diversité qui émanent littéralement de la base et du plus profond d'une société en révolte et en révolution. Et que ces mouvements, et c'est pour ça que ce livre, je l'avais écrit au tout début de la Révolution, pour tracer des pistes d'interprétation, parce que j'étais convaincu d'abord qu'on n'était qu'au début, mais surtout que ça allait très vite devenir d'une confusion extrêmement déroutante. Et que, comme d'habitude, et j'avais vécu ça pendant la guerre dite civile au Liban, il y a une palette très large de forces qui ont tout intérêt à ce qu'on n'y comprenne plus rien. Parce que c'est beaucoup mieux pour leurs petites affaires qu'on n'y comprenne plus rien. Alors je ne dis pas du tout que c'est simple. Et ce que j'expose devant vous n'est qu'une interprétation possible parmi beaucoup d'autres, et c'est celle d'un historien. Et j'insiste là-dessus. Les démographes, les politologues, les sociologues, les économistes, les anthropologues, et j'oublie des disciplines, tout ce qui est de plus respectable, ont tous, plus que leur mot à dire, leurs regards, leurs études sont capital pour comprendre ce qui se passe. Mais il faut voir aussi que tous ces régimes, tous ces dictateurs, tous ces gangsters, pendant des générations, ont tout fait pour qu'on ne comprenne plus rien à ce qui se passe dans leur pays. Parce que eux, ils savaient très bien que l'ignorance garantissait leur arbitraire et leur toute-puissance. Donc, ce n'est pas forcément la catégorie la plus visée, mais il faut savoir que les chercheurs, les universitaires, tous ceux qui essayaient de comprendre, qu'ils soient des ressortissants de ces pays ou qu'ils viennent de l'extérieur, eh bien, étaient l'objet de violences, d'intimidations, de tous ordres pendant les années qui viennent de s'écouler. Et je ne ferai que mentionner, mais avec beaucoup d'émotion, la personnalité tant regretté de Michel Seurat, mort au Liban, comme otage d'une milice en janvier 86, et qui a, faut le lire et le relire, son état de barbarie et la description à ce jour la plus pertinente du régime syrien. C'était Assad père, Assad fils fonctionne de la même façon, et d'une certaine façon, même si les circonstances de sa disparition ont été extrêmement compliquées, c'est aussi pour ce qu'il avait écrit qu'il a payé aussi cher. Donc on est aujourd'hui au début de cette vague historique, dans cet an 1 de la Révolution arabe, que je mets au singulier parce que je l'inscris dans le prolongement de la Nahda. Oui, c'est le même nom que le parti qui a remporté les élections en Tunisie, mais avant ce parti-là, il y a une nahda, une renaissance, qui, ce sont les historiens arabes qui le disent eux-mêmes, a débuté en 1798 avec l'expédition de Bonaparte en Égypte. Expédition qui, comme le disent les historiens qui écrivent bien, est un événement Janus. Avant on disait ambivalent, maintenant on dit Janus. C'est vrai que c'est beaucoup plus élégant. Hein? Donc c'est à la fois une irruption étrangère, une invasion, hein? C'est évident, hein? Quelles que soient les proclamations que Bonaparte faisait en arabe pour laisser à croire qu'il était musulman et qu'il venait libérer ses frères égyptiens de la tutelle ottomane. Mais la grande différence entre Bonaparte 1798 et Bush, Rumsfeld et consorts 2003 en Irak, c'est que avec Bonaparte, il y avait une expédition scientifique. Il y a eu la description de l'Égypte. En 2003, on a méthodiquement exclu les gens qui connaissaient un peu l'arabe et le monde arabe et les musulmans du corps expéditionnaire américain parce qu'ils auraient pu être un peu troubles. Ils auraient pu être pas fiables. Ils auraient pu avoir de la sympathie pour ces gens, après tout. Hein? Donc il fallait mieux des gens qui ne connaissaient rien. C'était ériger l'ignorance en arme stratégique. On avait gagné, et il y a des textes là-dessus, on avait gagné la guerre froide contre les Russes en n'écoutant rien de ce que disaient les slavisants. Eh bien, on allait gagner contre la guerre globale contre la terreur en écoutant le moins possible ce que les arabisants et autres spécialistes pouvaient dire sur le monde arabe. On voit, il ne faut pas croire du tout que le champ de ruines laissé par le désastre américain en Irak est derrière nous. Ce n'est pas parce que les Américains en sont partis que cette affaire est soldée. Hein, et malheureusement, le peuple irakien va continuer de payer encore longtemps pour cette catastrophe. Alors, du côté de Bonaparte, ce n'est pas pour faire cocorico. On a la description de l'Égypte. On a effectivement tout un travail scientifique de redécouverte à lui-même et qui est utilisé par les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Non seulement l'égyptologie, mais il y a eu tout un travail dans toutes les grandes disciplines de la science de l'époque. Et ce qu'on voit, c'est que, après tout, Bonaparte, comme vous le savez, n'est pas resté très longtemps. Hein, c'est que ce choc, il va déstabiliser de manière irréversible la domination ottomane sur la rive sud de la Méditerranée, qu'on peut au futur intérieur déjà qualifier de monde arabe, mais que des historiens plus ferrés que moi qualifient pour l'époque de monde islamo-méditerranéen. Et on voit déjà que la Tunisie et l'Égypte sont à l'avant-garde de cette nahda. Alors, c'est pas les mouvements actuels. Ce sont des dynasties qui n'ont plus qu'une une allégeance formelle envers la Sublime Porte et qui mettent en place des programmes de modernisation autoritaire de leur pays. Hein, ce sont les beys en Tunisie. Les beys étaient là depuis avant la Nahda, mais c'est par la Nahda qu'ils donnent vraiment toutes leurs mesures, et ce sont les Khédives en Égypte. Et donc on voit la Tunisie qui va abolir l'esclavage 2 ans avant la France, qui va adopter en 1861 une constitution très avancée, qui de fait distingue le pouvoir politique du pouvoir religieux. On voit l'Égypte qui se constitue pour l'époque en pays émergent, avec une réforme foncière, une réforme fiscale, une industrie qui se met en place. Mais on voit aussi que dans un cas comme dans l'autre, l'irruption coloniale, et là, c'est pas Bonaparte. Là, ce sont des corps expéditionnaires qui vont s'installer pour durer. 1881, le protectorat en Tunisie, protectorat français, et 1882, c'est la domination britannique en Égypte. Donc on voit ce processus de Nahda malgré tout se poursuivre. Et la génération Facebook de ce temps-là, c'était des dizaines de milliers de diplômés qui, à défaut d'avoir Internet, avaient une langue arabe qui était popularisée par l'imprimerie et par des journaux qui étaient souvent fondés justement sur la base d'imprimerie nationale, c'était le cas en tout cas en Tunisie, et donc la langue arabe qui sort de la mosquée et de la médersa, qui sort du lieu de production et de diffusion de caractère religieux, ce qui ne veut pas dire que le discours qui est imprimé dans ces journaux n'est jamais religieux, il peut l'être, mais il est sur un médium qui lui ne l'est plus. Et donc on a cette Nahda qui déjà entre en résonance par le biais de ces intellectuels, en arabe on dit mouskafin, c'est-à-dire les cultivés, et qui rentrent en écho avec la diaspora en Europe et en Amérique du Nord. Et puis on a tout ce phénomène d'affirmation nationale. Je vais laisser Samia. Au deuxième niveau de la bibliothèque, Madame Samia Erhel. Et on a donc ce que Albert Hourani, qui est un des plus grands historiens qui a écrit l'histoire des peuples arabes, et il a consacré un livre à cette période. La Nahda, il la décline sur un siècle et demi. Il l'appelle l'âge libéral de la pensée arabe. Et on voit bien que la mobilisation opiniâtre des peuples arabes pour leur libération, leur émancipation, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a on peut avoir effectivement deux siècles où on peut retrouver cette pugnacité. Et puis, on a en 1919, en Égypte, un immense mouvement de désobéissance civile contre les Britanniques qui refusent, malgré les conférences de paix qui ont suivi le premier conflit mondial, d'accorder, de rendre à l'Égypte son indépendance. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut voir que le mouvement de 1919 a beaucoup de points communs avec ce qu'on a vu sur Tahrir depuis un an. Avec à la fois désobéissance civile, mouvement pacifique, des pertes effrayantes. L'armée britannique impériale n'avait rien à envier dans sa brutalité à ce qu'on a vu ces derniers temps en Égypte. Mais en même temps, la nation, la croix et le croissant systématiquement mis en avant ensemble, et des mouvements qui partent de la bourgeoisie éclairée des villes, mais qui très vite touchent le reste du pays, et notamment les campagnes, avec une forte dimension sociale. Et donc on a cette mobilisation qui finalement, même si elle est écrasée, il y a des centaines de morts, il faut voir que ce mouvement de non-violence, c'est des années avant Gandhi. On me dirait, associer la non-violence et les Arabes, mais où allez-vous ? Ben oui. Il y a même eu il y a toute une tradition, non seulement de non-violence, mais qui en découle après d'exercices parlementaires du pouvoir, avec donc, quand l'indépendance est reconnue et en 1922, vous allez avoir 30 ans de monarchie constitutionnelle avec une pratique parlementaire tout à fait active et une presse tout à fait pluraliste. Moi, quand j'entends dire, au printemps, à l'été, à l'automne ou à l'hiver, que ces révolutions arabes, leur grand handicap, c'est que ces peuples n'ont aucune expérience démocratique, d'abord, on voit quand même pointer le léger préjugé culturaliste derrière tout cela, Mais en plus, historiquement, c'est totalement faux. Hein. Et prenez, il y a eu l'Égypte, il y a eu la Syrie, il y a eu le Liban. Enfin, il y a tout un bagage hein, qui est très vivant, très vivace aujourd'hui chez des peuples qui ont une conscience politique très forte. Hein. S'il y a quelque chose de commun dans tout le monde arabe, à part la langue arabe, c'est qu'on est fou de politique. On adore la politique. Et dans toutes les couches de la société, et dans tous les milieux, c'est un sujet de conversation intense, et généralement avec des arguments qui peuvent être foutraques, mais qui sont réfléchis, et qui témoignent d'un intérêt très fort pour la chose publique. Et d'une notion aussi très forte de l'histoire. Moi, j'oublierai jamais les réflexions qu'on m'a faites dans des villages de Syrie où on mettait en balance le système ottoman, les Français, le système du Bas, et tout ça participait quand même d'une réflexion qui n'avait aucun caractère académique, mais qui était très solide sur ce que c'est que la politique et comment les peuples se sont, au fil des siècles, quand même généralement fait manipuler par les dirigeants du moment. Donc on a toute cette espérance de la Narda qui va, pour faire très simple, hein, être progressivement enterrée après la Deuxième Guerre mondiale par des indépendances qui sont dévoyées du fait de l'émergence de pouvoirs militaires ou de pouvoirs qui, s'ils ne sont pas militaires, sont appuyés sur de très forts appareils de sécurité qui, de toute façon, traitent la population comme des prisonniers dans un conflit, hein, avec d'ailleurs souvent loi martiale, état d'urgence, etc., donc des dispositions qui sont des dispositions de guerre. Et donc, une armée ou des services de renseignement, alors il y a un mot pour ceux qui ne sont pas arabes, c'est mukhabarat, hein, c'est le mot qui fait trembler d'un bout à l'autre du monde arabe ou qui faisait trembler jusqu'à la révolution, hein, sont les services de renseignement. Hein. Alors parfois ils ne s'appellent pas mukhabarat, amma, askariya ou je ne sais pas quoi, mais de toute façon c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Et l'idée, c'est que ces régimes, au fond, finissaient par se comporter comme des armées d'occupation dans leur propre pays, en traitant effectivement la population comme soumise à leur bon vouloir, sur une base qui ressortait beaucoup plus du droit de la guerre que du droit tout court et des libertés publiques et démocratiques, évidemment. Et pour faire là encore très court, si ce système entre en crise aujourd'hui, c'est à la suite de 1000 facteurs, mais les plus importants sont le passage d'une génération à l'autre au niveau des dirigeants et le passage d'une génération à l'autre au niveau de la population. Au niveau des dirigeants, vous aviez des équipes qui étaient ce qu'elles étaient, qui souvent pratiquaient le pouvoir avec une cruauté ou en tout cas une absence de compassion et de pitié évidente. Aujourd'hui, il est de bon ton en Tunisie de dire pique-pendre de Ben Ali et on a bien raison, mais il va falloir quand même un jour raconter Bourguiba, qui a tué beaucoup plus de Tunisiens que Ben Ali, et qui est celui qui, en 1957, alors que la constituante de l'époque était en train de proposer une monarchie de type parlementaire, a complètement détourné le processus pour l'établissement d'une présidence sans partage, qui est devenue, un peu plus tard, une présidence à vie. Mais Bourguiba, même si le processus de l'indépendance tunisienne est à étudier avec beaucoup de sang-froid, avait une contribution historique évidente à mettre en avant auprès de son peuple. Même si l'appropriation, hein, le côté père de la nation, père de l'indépendance, était tout à fait excessif. De même que Bourguiba, comme Hafez al-Assad, ou d'autres que j'ai pu rencontrer, je n'ai pas rencontré Bourguiba, mais Hafez al-Assad, oui, souvent, enfin, de nombreuses fois, il n'avait aucun intérêt pour le luxe ostentatoire. C'était le pouvoir et l'élimination de leurs ennemis qui leur importait. C'était pas le bling-bling. C'était pas la montre. Et la génération suivante qui prend les commandes, donc au cours des dernières années, elle n'est plus du tout bridée par quoi que ce soit. D'abord parce qu'elle est née au pouvoir, que ce pouvoir lui a été donné. Donc c'est Hafez al-Assad, Bachar al-Assad, à sa mort, donc à la mort d'Hafez al-Assad en 2000. Et cette nouvelle génération est pressée par un phénomène d'avidité qui correspond à l'air du temps et la culture du fric qui participe de la globalisation ambiante. Et donc elle se gave, il n'y a pas d'autre mot. Et on a une constellation de sauterelles qui se mettent en place dans tout le monde arabe. Avec, avant, on avait de la corruption. On pouvait même dire qu'on avait du pillage et du détournement. Mais là, on passe à une autre échelle, à la coupe réglée. Sans frein, sans rien, qui puisse faire un contrepoids, parce que le régime s'est approprié le pays, ses ressources, et ce qu'il donne au peuple, il le donne parce que c'est son bon, parce qu'il le veut bien, pas parce que le peuple le vaut bien. Et donc, en Tunisie, c'était extraordinaire. C'est quand même un pays, une population extrêmement douée, beaucoup de talent, beaucoup d'ambition légitime. Mais chaque fois qu'une Tunisienne ou un Tunisien réalisait quelque chose, il fallait qu'elle rende grâce à Ben Ali de lui avoir permis de le faire. Même la réalisation personnelle était kidnappée. Et donc on a ce phénomène qui se met en place avec ce qu'on appelle, on a inventé un mot en arabe, les répus monarchies, Jamlaka ou Jumlukiye, c'est Jumhuriye, donc c'est la république, et Mamlaka, c'est le royaume, la monarchie, pour ces républiques héréditaires. Hein, quand Hafez al-Assad meurt en juin 2000, la constitution de la République arabe syrienne prescrit que le chef de l'État doit avoir 40 ans. Bachar al-Assad en a 37,5. Donc, ils réunissent le Parlement qui, aux surprises, vote par acclamation l'amendement de la Constitution. Les connaissant un petit peu, moi je pensais qu'ils allaient mettre dans la Constitution 37,5 ans. Non, ils ont été élégants, ils ont mis 35 ans. Donc une fois qu'ils avaient accompli cette formalité, ils ont, aux surprises, toujours par acclamation, désigné Bachar al-Assad comme seul et unique candidat à la présidence. Évidemment, il a obtenu les 98% standards aux élections suivantes. Mais ce système, donc en Syrie, on voit l'abjection du fils après celle du père, il était programmé pour se mettre en place en Égypte, avec Gamal Moubarak, en Libye, avec Saiful Islam Qaddafi, au Yémen, etc., etc., etc. Et donc, face à cela, on avait une nouvelle génération dans le monde arabe qui, elle, avait plusieurs points communs. Le premier, c'est qu'elle avait grandi à l'ombre du même dictateur. Parfois même, elle avait vécu à l'ombre du même dictateur. Hein, je vous rappelle, 42 ans Kadhafi, 30 ans Moubarak. Alors les Égyptiens qui ont beaucoup d'humour disaient, ah, oh, ils disaient ça sur Tahrir, il veut rentrer dans le livre des Guinness. 30 ans, c'est pas assez. Ah, oh, miskine, le pauvre. Non, faut vraiment l'aider. Que 30 ans, non. C'est pour ça, il se sacrifie pour nous, c'est vrai. Donc, on avait et cette nouvelle génération, mieux formée, mieux éduquée que celle qui l'avait précédée, parlant un meilleur arabe en plus grand nombre, du fait de toute une série de programmes d'arabisation qui ont de très nombreux défauts, mais qui ont aussi contribué à faire que, pour la première fois dans l'histoire, on a autant d'arabes qui parlent le même arabe, vu qu'il n'y a que les non-arabes pour croire que les arabes parlent arabe. Les arabes savent qu'ils parlent un arabe. Il se trouve que ce un arabe se rapproche du un, tout court, depuis pas très longtemps. À l'époque de Nasser, quand on a les grands discours qui sont diffusés par la voix des arabes, Saout al-Arab, depuis le Caire, on est dans ce rapport du père qui parle à l'âme, au peuple, à la plèbe. Il lui parle. Il n'est pas question qu'elle lui réponde. Sauf pour l'applaudir et dire « Ah, longue vie, nous nous sacrifierons pour toi, nous donnerons notre âme et notre sang pour toi. » C'est la seule chose que peut dire la plèbe, hein, en écho aux paroles. Mais il y a non seulement ce rapport surplombant, mais il y a aussi le rapport surplombant de l'Égypte vers les autres. C'est-à-dire que tout le monde comprend ce que dit Nasser, mais que si un Marocain répond, ben l'Égyptien ne comprendra pas. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a cette langue qu'on appelle l'AMS, bon, l'arabe moderne standard, hein, qui s'est plus ou moins homogénéisée, c'est un arabe moyen, comme on dit aussi, arabe de presse, et qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, les chaînes satellitaires, il n'y a pas qu'Al Jazeera, mais Al Jazeera a contribué avec d'autres, hein, à l'Arabie, à ça, qu'aujourd'hui, effectivement, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ce qui est produit en arabe peut se répandre très très vite et est immédiatement compréhensible par des dizaines de millions de jeunes femmes et d'hommes. Et donc cette nouvelle génération, elle arrive déjà, elle est la génération de la transition démographique. Alors il y a un livre formidable, très percutant comme toujours, hein, d'Emmanuel Todd, Allah n'a rien à voir. Non, Allah n'y est pour rien. Oui, je sais ça, Allah n'y est pour rien. Parce que la transition démographique est pratiquement, hein, hormis justement Syrie, Yémen et Palestine, pour faire très simple, le Soudan est un cas particulier. La transition démographique est réalisée. On est dans un monde arabe où le modèle familial est un modèle à 2-3 enfants, ce qui change complètement le rapport à l'autorité, mais aussi l'investissement sur l'avenir des enfants et leur légitime aspiration. Or, ce que voit cette génération, c'est que si elle n'est pas branchée sur le parti du président, si elle n'a pas un piston, un parrain, un protecteur, et si elle a le moins de problèmes avec les services de sécurité, donc les mukhabarats, souvent les deux sont les mêmes, hein, les caciques du parti sont aussi ceux qui dénoncent, enfin, il y a une vraie osmose entre les deux, eh bien, sa carrière professionnelle, ses ambitions dans l'économie, le commerce ou que sais-je, sont ruinées d'avance. Et à supposer qu'elle arrive à les réaliser, de toute façon, elle se fera racketter et embrigader, caporaliser par un système qui ne suscite plus que le mépris. Hein, toutes les blagues en Tunisie, c'était sur Ben Ali, bac moins 4. Que peut penser une jeunesse qui est remarquablement éduquée comme la jeunesse tunisienne d'un président qui est tout simplement beaucoup plus bête qu'elle et le montre et Quand par là-dessus, vous avez le fait qu'il n'y a pas de pétrole en Tunisie, que donc le pillage, le brigandage de ces clans mafieux se fait directement dans la poche des Tunisiennes et des Tunisiens. On ne peut pas détourner une partie de la rente pétrolière comme c'était le cas en Libye, par exemple, et dans une moindre mesure en Syrie. À ce moment-là, on arrive à un point de rupture. Et ce point de rupture, on l'a vu le 17 décembre 2010, avec la mort de Mohamed Bouazizi, qui a littéralement mis le feu à tout le monde arabe. Donc pour conclure, on a actuellement à l'œuvre dans cette révolution arabe qui ne fait que commencer une double dialectique. Désolé du jargon, mais c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre mot. J'ai cherché, mais c'est celui-là. La première, c'est qu'on a cette sphère publique arabe du Maroc jusqu'à Oman qui accentue la mobilisation protestataire, même si chacun des mouvements se déploie dans le cadre des frontières post-coloniales. Oui, je finis. Qui sont paradoxalement consolidées par le processus révolutionnaire lui-même. Et de même, ce soulèvement démocratique, qui est porté par des exigences de justice sociale et politique, se vit et se met en scène comme une lutte de libération nationale, en arabe c'est Tahrir, c'est le nom de la place centrale du Caire, afin de reconstruire par le bas la nation trop longtemps niée par le despote. On veut se débarrasser de Bachar, ou de Muammar, ou de Hosni, non pas parce que ce sont des agents de la CIA ou du Mossad ou je sais pas quoi, mais parce qu'ils sont des étrangers à leur pays, qu'ils traitent comme étrangers, regardez ce que fait l'armée syrienne aujourd'hui contre son peuple, hein, mais parce qu'il a pillé, humilié, spolié, et que donc il est devenu étranger, et qu'il doit être renversé pour cela. Donc ce processus est appelé parfois à s'intensifier, et en tout cas à se complexifier, à mesure que les transitions démocratiques vont se développer et se stabiliser, avec un phénomène d'émulation régionale. Il faut voir que quand, et le plus tôt sera le mieux, le régime de Bachar sera tombé, ça va relancer la mobilisation révolutionnaire partout, y compris dans des pays où elle a été à ce jour relativement amortie. Donc il faut en tout état de cause se garder de tout jugement hâtif sur un mouvement d'une telle profondeur et d'une telle ampleur historique, car cette seconde renaissance arabe et la révolution arabe qui la porte n'en sont qu'à leur première année. Merci de votre attention.
S'il y a des questions, je vous invite à dialoguer avec notre intervenant.
Bonsoir tout d'abord. Je discutais récemment avec un touriste américain. Et donc quand on est arrivé, on parlait de l'Irak. Il me donnait comme principale satisfaction des Américains le fait qu'actuellement, il y avait des révolutions dans le monde arabe. Donc est-ce que vous pensez que l'action de démocratisation de l'Irak par les États-Unis, même si elle est très contestable, a eu une influence sur les révolutions et leur commencement dans le monde arabe?
Ah oui, elle les a sans doute retardées de longues années. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est l'argument principal de Bachar et des autres. C'est ce côté qui est très père fouettard. Je te protège, ô mon peuple, enfant, je t'étouffe, je te serre très fort contre mon cœur bien généreux parce que tu ne le vaux pas. Mais regarde en Irak ce qui t'arrivera si jamais je tombe. Regarde en Irak. Et il faut quand même dire que c'est un désastre. Et ce désastre, il n'est pas terminé. Hein? Et que... la destruction de l'État, qui a été tout à fait volontaire. Hein. C'est pas un phénomène. Les Américains ont démoli l'État irakien. Je dis pas par conspirationnisme, par idéologie. C'est-à-dire, ils avaient d'immenses penseurs, des gens qui avaient fait des études extraordinaires et qui leur avaient fait des rapports qui se résumaient en deux phrases, si je puis me permettre. Ils étaient beaucoup plus lourds parce qu'ils étaient très très bien payés. C'était les Arabes comprennent que la force. C'est sophistiqué. Hein. Et les musulmans, ils leur font un chef. Ah, ça aussi, c'était... Avec tout le culturalisme et tout, tout. Donc, on va à la tête, on coupe la tête, et bing, la démocratie va apparaître partout, spontanément. On va nous accueillir avec du riz et des roses, etc. Alors, évidemment, le jour où ça s'est pas passé comme ça, les Américains ont été très déçus. Et bon, vous avez vu Full Metal Jacket et d'autres films, on sait ce qu'ils font quand on les comprend pas. Hein? Et je vous jure que je caricature pas. Donc, ce désastre irakien a inhibé pour longtemps le mouvement démocratique. Parce que partout ailleurs, ben j'ai vécu ça, en Tunisie, en Égypte. Dès qu'on contestait Ben Ali, dès qu'on contestait Moubarak, on disait « Ah, agents des Américains !» Qu'est-ce qu'ils font actuellement, les militaires américains avec les ONG, les militaires égyptiens avec les ONG? Ils essaient de les délégitimer en disant « c'est du financement américain, c'est de la subversion, c'est ceci, c'est cela hein ». Donc, les malheureux démocrates, qui déjà étaient quand même pris entre un certain nombre de feux croisés, pas les énumérer tous. En plus de cela, ils devaient se garder, c'est-à-dire à supposer qu'on ait voulu les aider, il fallait surtout pas qu'ils acceptent l'aide, parce qu'immédiatement, ça les aurait enfermés dans le procès « vous êtes des agents des Américains ». Dans le cas syrien, c'est encore pire, parce qu'il faut voir qu'au moment de l'invasion américaine, la contestation, et d'ailleurs beaucoup de grandes figures de l'opposition actuelle étaient déjà à ce moment-là, c'est ce qu'on appelait le printemps de Damas, était très vive. Et elle aurait pu, on ne sait jamais, hein, aller encore plus loin à ce moment-là. Et arrive cette catastrophe. Et arrive 1 million de réfugiés irakiens en Syrie, qui racontent tous des histoires plus atroces les unes que les autres. Comment voulez-vous que ça n'ait pas d'impact en Syrie sur la population syrienne? Comment voulez-vous que Bachar al-Assad ne puisse pas, avec quelques arguments, dire « vous voyez hein ?» Ce qui arrive quand on veut ouvrir la boîte de Pandore, vous mettez tous les clichés possibles. Donc non seulement cette démocratisation à l'américaine n'a en rien aidé au mouvement actuel, mais je suis convaincu qu'elle l'a handicapé jusqu'au jour d'aujourd'hui en Syrie. Parce que, et c'était, ben, de toute façon, c'est le piège de toute idéologie, hein, qui avec un prix. C'est-à-dire que les Américains avaient exactement la même vision surplombante que les dictateurs. Ça devait se changer par le haut. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour ça que c'est tellement complexe. C'est des mouvements qui émanent vraiment des sociétés. Et donc, alors, bon, j'en parle assez, et puis j'en parle assez facilement, parce que j'enseignais à New York au moment de la révolution égyptienne, et bon, j'allais à Washington, je voyais un certain nombre de personnes de l'administration et tout qui me disaient « il faut vite aller aux élections présidentielles ». Je me disais « pourquoi ?» Il se posait même pas la question. Si on renverse une tête, il faut vite une autre tête. Comme si il y avait une incapacité à concevoir autre chose. Alors on voit bien, l'autre tête aujourd'hui, c'est le maréchal Tantawi, qui est le chef du conseil militaire, conseil supérieur des forces armées. Mais on voit aussi que sur Tahrir et ailleurs, hein, et vous verrez après-demain la grande manifestation qui aura pour le premier anniversaire de la chute de Moubarak, qui va demander sa chute à lui. Ils veulent pas de chef. c'était pas du tout leur la révolution syrienne est une présidence tournante. On n'est pas du tout dans les schémas que les Américains voulaient promouvoir. Et en plus de cela, les Américains, et bon, puis j'arrête, parce que sinon vous allez croire que je ne les aime pas d'amour, or je les aime d'amour, mais les Américains s'étant interdit d'avoir des spécialistes de la question, pour les raisons que j'ai évoquées rapidement, c'est-à-dire l'ignorance comme arme stratégique. Quand même, au bout d'un an en Irak, c'était une telle catastrophe, et puis surtout, ils perdaient beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il se trouve qu'ils avaient les Britanniques avec eux. Donc, ils sont allés exhumer les travaux des Britanniques dans les années 30. L'anthropologie coloniale, le tribalisme appliqué au maintien de l'ordre. Et donc, moi, je les ai vus en 2004, ils étaient là. Ah oui, donc la grande tribu de la province de Ninive, la grande tribu. Mais on parlait de schémas qui étaient... Et donc, ils ont reconstruit les tribus. Parce qu'ils cherchaient les chefs des tribus. Et ils ont construit un système politique dont on voit aujourd'hui le caractère profondément pervers, qui est un système miliciano-confessionnel. Ils sont arrivés à construire les ingrédients de la guerre civile du Liban en 2 ans. Impressionnant. Évidemment, quand on arme les acteurs qu'il faut et quand on leur donne les positions de pouvoir qui correspondent, on peut assez vite arriver à une forme de chaos milicien dont les premières victimes sont les minorités qui n'ont pas de milice, c'est-à-dire en clair les chrétiens. L'idée que la fin du dictateur est une mauvaise nouvelle pour les chrétiens, ce qui est un discours qu'on a entendu très très souvent avec... tous les aplombs qui vont bien ne correspondent. C'est pas la fin de la dictature, c'est le chaos milicien qui n'est pas exactement la même chose. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la révolution syrienne, à bien des égards, saute aux limites, ne veut pas tomber dans le piège de la guerre civile et de la militarisation à outrance. On a une armée syrienne libre. Mais on voit bien qu'elle essaie de défendre, et avec le peu de moyens qu'elle a, les quartiers ou les villes ou les villages qui sont tenus par la révolution, mais pas de passer à l'offensive, parce que toute mécanique de guerre civile clive en termes confessionnels, communautaires, et génère, elle a sa logique propre. Et du coup, elle est fatale aux forces qui n'ont pas de protection milicienne.
Une autre question ? Oui, monsieur.
Bonsoir. En intervenant militairement en Libye, est-ce qu'on n'a pas volé au peuple libyen sa révolution ? Enfin, est-ce qu'on a eu raison d'y aller ou pas ?
La réponse est un oui sans aucune réserve. Il faut vous rappeler la situation. Le 17 mars, lors du débat au Conseil de sécurité... et le 19 mars, lors des premiers bombardements. Le mouvement libyen était initialement pacifique. Il a été contraint de se militariser du fait de la volonté d'extermination du régime Kadhafi. Et avant l'intervention, il y avait une ville, Zawiya, qui avait déjà été reprise avec les massacres que l'on sait aujourd'hui, et c'est le sort qui aurait été réservé, rappelez-vous le discours de Kadhafi, on va les reprendre ruelle par ruelle, zenga zenga. Mais là encore, n'en déplaise à de fringants personnages, c'est les Libyens qui ont libéré leur pays. Et d'ailleurs, ils ont libéré Tripoli en faisant tout le contraire de ce qu'on leur demandait de faire ailleurs. Ils l'ont fait à la Libyenne. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens dont c'est le métier qui n'ont pas compris comment ils ont fait. Entre les comités qui étaient dans Tripoli, les gens de Misrata, les gens du Jebel Nafusa, etc. Donc non, d'ailleurs on aurait bien du mal à voler aux Libyens quoi que ce soit. Il faut voir que la caractéristique de tous ces mouvements... c'est une extrême sensibilité aux questions de souveraineté. Et le Qatar a voulu trop ouvertement favoriser tel ou tel, et ça a été d'une certaine façon le baiser de la mort. Ils ont été marginalisés depuis, je ne vais pas rentrer dans les détails. En revanche, et c'est pourquoi il faut voir la révolution syrienne comme une tentative très volontariste, très consciente d'une maturité et d'un courage inouï de ne pas répéter les erreurs de la révolution libyenne. Moi, je cite dans le livre, alors c'est un collègue que je ne connais pas encore, mais comme je vais aller bientôt en Libye, j'espère aller le voir, qui dirigeait le département d'anglais à Misrata, puisqu'il est devenu chef de bataillon révolutionnaire de Katiba. Et au printemps dernier, il disait quelque chose de formidable, de très profond. Il disait « faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce que ça va nous changer ». Une guerre civile, c'est pas la révolution, c'est autre chose. Hein, et cette révolution qui est justement, avec tout l'aspect d'auto-organisation, de comité, de conseil, une guerre, enfin on le sait, hein, faut une hiérarchie, alors là faut un chef, il faut... donc on n'est plus du tout dans les mêmes types de fonctionnement. Et aujourd'hui, c'est le principal obstacle devant la vraie libération de la société libyenne, c'est qu'il faut démilitariser. Tant qu'il y aura des milices qui feront le coup de feu dans les rues de Tripoli, qui auront leur centre d'interrogatoire, voire de torture, qui auront leur prise de guerre, qui auront ceci, qui auront cela, on ne peut pas dire qu'on est dans la Libye nouvelle. Donc là, il est évident qu'aujourd'hui, c'est la priorité absolue en Libye, et qu'on a effectivement des messages pour le moins contrastés qui arrivent de là-bas. Mais ça, d'une certaine façon, c'est le dernier coup de poignard de Kadhafi à son peuple. Et c'est lui qui a légué ça. C'est lui qui a de même que Bachar, qui de toute façon va tomber, fera tout pour tomber le plus tard possible en faisant le plus de morts possible et en suscitant le plus de milices possible. Parce que d'une certaine façon, il prolongera ainsi, même après sa chute, une forme de... Son ombre sera toujours là, si j'ose dire. Et la culture milicienne, c'est aussi, du fait de du culte des armes, avec tout ce que ça implique, je ne vais pas faire de psychanalyse de bazar, d'intimité avec cette culture patriarcale dont justement le monde arabe veut s'émanciper aujourd'hui. En tout cas, la jeunesse arabe, là, il n'y a aucun doute.
Bonsoir. J'aimerais savoir l'avis d'un historien sur l'effet du mouvement arabe sur le litige israélo-arabe ou le litige israélo-palestinien.
Alors, une de mes leçons, c'est la Palestine au cœur demeure. Parce que là aussi, rappelez-vous, tous ces bons esprits qui, au moment de Tahrir et autres, ont dit « Vous voyez, les Arabes n'ont pas de problème avec Israël, ils ont des problèmes avec leur dictateur. » Comme si, du coup, ça réglait... alors maintenant, on entend un tout autre discours, d'ailleurs, souvent par les mêmes. C'est ni ceci, ni cela. Là encore, c'est de la dialectique. On est face à des mouvements qui ne considèrent pas qu'ils font face à une conspiration internationale. Ils veulent se débarrasser de leur dictateur parce qu'ils n'en peuvent plus. Pas parce qu'il a été mis en place par tel ou tel. Donc, effectivement, ça c'est historiquement prouvé. En Égypte, on a 18 jours de révolution sans aucun slogan anti-israélien. Et sans drapeau israélien brûlé. Parce que le problème, c'était Moubarak. Et d'ailleurs, on ne parle pas de Camp David, on parle pas. Et d'ailleurs, au même moment, qui demande la violation de Camp David, qui obtient la violation de Camp David, c'est Israël. Qui demande, contrairement au traité de Camp David, que les forces armées égyptiennes pénètrent au Sinaï. Alors que ce déploiement militaire était interdit par les stipulations du traité, parce qu'Israël s'inquiète de la déstabilisation du Sinaï et notamment de l'approvisionnement en gaz par le Sinaï où il y a eu, comme vous le savez sans doute, un certain nombre d'attentats. Mais ça, c'est le premier. En même temps, on voit, il faudrait être aveugle pour pas le voir, que dans tous ces mouvements, le seul symbole qui peut être associé au symbole national, c'est le symbole palestinien. C'est le kéfiyé, c'est le drapeau palestinien. Comme si la Palestine était au fond le symbole de toute cette injustice contre laquelle ils se battent à titre national. Et la plupart de ces jeunes, il faudrait pouvoir faire des études empiriques fouillées, la première fois qu'ils sont descendus dans la rue, la première fois qu'ils se sont fait tabasser ou arrêter, c'est en 2009 pendant la guerre de Gaza. Donc pour eux, c'est extrêmement important. Ce qui ne veut pas dire que demain, ils vont descendre dans la... Mais ça participe de leur intime politique et de la construction de leur engagement. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que pour la première fois dans l'histoire palestino-arabe, on a une solidarité qui n'est pas avec Fatah ou Hamas ou l'OLP. Quand on manifeste pour la Palestine, on manifeste avec le drapeau palestinien, pas avec le portrait d'un leader. On n'en veut pas chez soi, on n'a pas envie d'en imposer un aux autres non plus. Ça, c'est très nouveau, hein, parce que ça renverse complètement... Hein, c'est des caravanes pour Gaza, c'est des choses comme ça. C'est pas on va aider telle ou telle formation ou autre. L'autre volet, et j'ai eu la chance d'être à deux reprises déjà dans des conférences plus ou moins ouvertes avec des Israéliens sur ce sujet et des militants arabes et des militants des révolutions, hein, c'est que maintenant on a les peuples arabes, les opinions arabes, hein, pendant des années, voire deux générations, les Israéliens disaient aux Arabes « Faites des gestes en direction de nos opinions pour les convaincre que la paix avec vous est une option raisonnable. » Maintenant, c'est ça que les Israéliens doivent faire. Il faut qu'ils convainquent les peuples arabes, les opinions arabes, qui auront droit au chapitre, qui ne vont pas forcément demain... rentrer en ébullition pour ceci ou pour cela, mais qui vont certainement être très attentives, évidemment à la façon dont les Palestiniens sont traités, hein, mais aussi aux messages et aux comportements, hein, d'Israël. Quand l'ambassade israélienne au Caire est attaquée le 21 août 2011, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est parce que Israël, quelques jours plus tôt, a tué 5 gardes-frontières égyptiens en exerçant un droit de suite sur le territoire égyptien et qu'elle a présenté des excuses vraiment minimales et à un niveau minimal. Hein, et que donc ça a provoqué une grande colère qui s'est traduite de manière absolument regrettable, voire condamnable, par l'attaque de la représentation diplomatique au Caire. Attaque qui a d'ailleurs été condamnée par les mouvements révolutionnaires eux-mêmes. Hein. Donc, c'était pas par hostilité existentielle. C'est parce que l'armée israélienne avait tué des Égyptiens dans des conditions qui avaient été jugées inacceptables par certains Égyptiens. Hein. Donc, il y a cette idée que les gestes auront un impact... Et que donc, il faudrait mieux envoyer les messages les plus positifs, les plus ouverts. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des réunions entre des révolutionnaires égyptiens et des indignés israéliens. Moi, ça me rend très optimiste. Mais le problème, c'est que dans les deux cas, ils ne sont pas au pouvoir. Hein, on peut, hein, l'histoire est ouverte. Hein. Mais je pense que, au-delà de tout ce qu'on écrit en ce moment, qui est plutôt... désabusé, voire pire, hein, une paix chaude, c'est-à-dire une paix des peuples, non plus une paix froide avec les chefs, est possible.
On va pouvoir prendre encore 5 ou 6 questions, donc je vais vous proposer de les poser 2 par 2. Sinon, je pense que donc il y avait oui, une question là et après.
Bonsoir. Alors en fait, moi je m'interrogeais dans le sens où, du fait du printemps arabe, il n'y a plus réellement de relations personnelles entre les dirigeants de la France et de relations strictement politiques personnelles entre les dirigeants de la France et du monde arabe. Alors, comment vous pensez que la France, elle peut repositionner sa politique vis-à-vis du monde arabe ? Merci.
Voilà, et il y avait une deuxième qui était... Ah oui, c'était vous, voilà. C'est... Je savais qu'il y en avait deux ici.
Bonsoir. J'aurais voulu savoir comment vous expliquez qu'un peuple qui aspire à la liberté, à la justice, à la démocratie, lorsqu'il a la possibilité de s'exprimer par les urnes, vote pour des partis qui sont susceptibles de leur prendre cette liberté, enfin, cette démocratie, cette justice.
Ah ben, ce sont deux belles questions. Alors je réponds à la plus facile qui est la première. Non, je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il n'y a plus de relations personnelles. Au contraire, bon, Marzouki va être invité, donc Moncef Marzouki, le président de la République tunisienne, va être bientôt invité en visite d'État en France. Il y a eu, au contraire, hein, des visites d'Alain Juppé ou d'autres dans tous ces pays, et des relations qui, d'une certaine façon, sont moins formelles. Hein. Il ne faut pas croire que avec Ben Ali ou autre, c'était si simple que ça. Hein. C'était des gens extrêmement vindicatifs, y compris dans les relations bilatérales. Donc, non. Et puis, il y a en Libye, hein, le fait qu'on a été... Bon, il faut savoir, alors ça vous fera peut-être sourire, mais bon, il y a plein de bébés. Alors maintenant, c'est plus des bébés, ils ont 6 mois, mais qui se prénomment Nicolas Benghazi. Hein, voilà. Et personne n'est allé derrière les mamans ou les papas pour leur demander de les appeler. Et Benghazi, c'est vraiment intéressant. Benghazi, ça doit être... Alors, corrigez-moi, un des rares endroits du monde arabe où la France n'a jamais eu la moindre présence. Et soudain, aujourd'hui, à Benghazi, vous avez des drapeaux français qui font des murs entiers. Vous avez... Donc, je dirais qu'il y a peut-être aussi la possibilité de faire des relations qui ne soient pas uniquement fondées sur... l'héritage colonial, les relations de différents ordres, et tout. Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous assurer que la position sur la Libye et sur la Syrie, où la France est quand même très en pointe, hein, vaut beaucoup de sympathie à notre pays dans plein d'endroits où, effectivement, on en avait sans doute un peu moins il n'y a pas si longtemps. Alors, votre question sur les islamistes... Ben, d'abord, il faut vous mettre à la place, je ne demande pas d'y être, mais vous mettre à la place, au moins intellectuellement, de populations qui ont entendu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ces gangsters dire que les islamistes c'était le diable. À la fin, vu les personnes qui disaient ça, on finissait par les trouver plutôt sympathiques. En plus, il y a l'idée qu'ils ont payé un prix énorme. Non pas à la révolution, ils ont pratiquement... En Tunisie, ils n'ont aucun rôle dans la révolution. Et en Égypte, ils ont... ils disent qu'on a eu 50 martyrs sur à peu près 900. Hein, donc c'est pas négligeable, mais c'est un rôle qui est marginal dans la révolution proprement dite. Alors donc vous avez l'idée que... Les dictateurs leur ont fait leur image. Pendant des années, ils ont dit c'est nous ou eux. Donc évidemment, quand les dictateurs partaient, le eux avait une certaine légitimité contradictoire. Ça, c'est pour faire simple, les frères musulmans égyptiens ou Nahda en Tunisie. Puis vous avez les salafistes. Ah, c'est tout autre chose, les salafistes. Les salafistes, c'est des gens, d'ailleurs, pensent que les Égyptiens ont été un peu vite en besogne en légalisant les partis salafistes sans poser un certain nombre de conditions sur l'acceptation des règles du jeu démocratique. Hein ? Donc les salafistes, eux, pour simplifier, c'est aussi un legs de la dictature. Parce que comme les salafistes, jusqu'à il y a peu, faisaient pas de politique... Les dictateurs, les Moubarak, les Ben Ali, leur donnaient les mosquées, leur donnaient les chaires dans les universités, pour justement contrer les frères musulmans. Hein, donc les salafistes ne sont pas arrivés d'hier. Ils sont là, très profondément implantés dans la société, du fait des dictateurs. Alors après, vous avez l'élection. Ben, l'élection, le peuple est souverain. Hein. Le peuple est souverain, mais il n'est pas du tout aveugle. À aucun moment, il ne leur a donné une majorité absolue. On est à 40% en Égypte, 32% en Tunisie et 29% au Maroc. Hein, avec fort heureusement un mode de scrutin qui est proportionnel, qui donc, à la différence de ce qui s'est passé en Algérie en 91, oblige à des coalitions. Hein, c'est un gouvernement de coalition au Maroc. Et c'est un système fondé sur la coalition de trois partis, donc Nahda islamiste, Takatul social-démocrate et CPR nationaliste, que la Tunisie fonctionne aujourd'hui. Moi j'ai vécu en 89 les premières élections en Jordanie après 25 ans de loi martiale, patin couffin. Frères musulmans ont fait 40% et ils ont perdu les suivantes. Donc je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, parce que les islamistes aujourd'hui sont beaucoup plus madrés, mais surtout ils ont beaucoup plus de cadres que n'avaient par exemple les frères musulmans jordaniens à ce moment-là. Mais c'est une chose d'offrir un mouton pour l'Aïd en période électorale. On peut être populaire assez vite, surtout quand c'est pas de sa poche qu'on paye le mouton. C'est tout autre chose de répondre aujourd'hui aux problèmes sociaux et économiques qui se posent en Tunisie et en Égypte. Et c'est là, hein, et quand on parle, alors c'est toujours empirique. Hein. Moi je parle beaucoup avec plein de gens, dans plein d'endroits, hein, en Tunisie ou en Égypte. Ils leur ont pas fait un chèque en blanc aux frères musulmans. Le vote est... C'est un vote contradictoire. On peut pas le... Enfin, il faudrait des études de sciences politiques qu'on n'a pas encore. Moi, mon intuition, c'est qu'il y a un vote religieux qui est, somme toute, minoritaire. Dans le vote islamiste, hein, entendez-moi. Pas dans le vote salafiste. Le vote salafiste est un vote religieux, ça c'est sûr. Mais dans le vote Narda ou Frères musulmans ou PJD au Maroc, le religieux est minoritaire. Et puis après, vous avez deux votes contradictoires, mais vraiment contradictoires. Parce que vous avez un vote révolutionnaire. Et il y a plein de gens en Égypte qui disent les seuls qui peuvent, excusez-moi l'expression, dégager l'armée, c'est les frères musulmans. Et comme c'est vraiment eux qu'on ne veut plus voir, eh ben on va pousser ceux qui pourront rompre. Sinon, la révolution ne sera jamais finie. On aura changé de tête. Et vous avez exactement le contraire. C'est-à-dire des gens qui ont voté pour les frères musulmans parce que c'est quand même le parti de l'ordre, et pas uniquement l'ordre moral. C'est un parti qui rassure, qui... Donc ça va être délicat, hein, à mener tout ça ensemble. Hein. Et donc moi je pressens, hein, des tensions très fortes dans ces mouvements, tensions internes. Et je finirai juste par une anecdote qui évidemment n'est pas arrivée jusqu'à la presse française, mais qui était extraordinaire. Ça s'est passé hier au Parlement égyptien. Et vous avez un salafiste qui se lève et qui chante l'appel à la prière en plein parlement. Il se trouve que le bonhomme est connu, hein, c'est un dur de dur, c'est vraiment... Le président du parlement, c'est un frère musulman de tendance plutôt rigoureuse, on va être gentil. Et il lui a dit en gros, ta gueule. Il a dit, c'est le parlement. Tu veux prier, il y a la mosquée à côté. Ici, c'est la représentation du peuple. Alors, je me fais pas d'illusions. Moi, je ne pense pas qu'ils vont changer dans leurs convictions intimes. Mais je crois que les populations, les démocrates, qui ne se font aussi aucune illusion, qui sont, y compris quand ils sont leurs alliés, hein, c'est une alliance extrêmement vigilante. Avec des rapports de force permanents. Hein. Mais c'est l'idée que la pratique amènera, par exemple, un président frère musulman du Parlement égyptien à dire à un salafiste, tu vas pas m'expliquer que tu es plus musulman que moi, si tu veux prier, tu sors. Ce qui est la définition même de la séparation du politique et du religieux.
Une, deux, je prends ces deux-là et après les deux dernières.
Oui, je voulais juste poser une question par rapport du fait qu'on dise qu'on soit intervenu en Libye pour des raisons humanitaires et pour des raisons morales. Il faut arrêter un peu la cacophonie. On est bien intervenu en Libye parce qu'on avait des intérêts économiques. Par exemple, M. Kadhafi, c'était quand même 85% de totale baptisation en Libye, avec un RMI égal à 600 euros. Les Libyens vivaient plutôt pas mal. La déclaration de la République a été faite à Benghazi alors que la République, ça reste quand même Tripoli. Mais on voit très bien que c'est même les pays avec qui il n'avait aucun accord et avec qui il ne vendait pas son pétrole, notamment la Russie et la Chine, qui l'ont soutenu dans cette affaire. Et le fait qu'il y ait, par exemple, les islamistes qui acceptent, des islamistes, hein, le mot est un peu trop fort, qui accèdent au pouvoir, on ne va pas dire que le peuple s'est trompé. C'est que c'est les seuls qui proposent une politique sociale, une politique qui favorise les classes pauvres, etc. Et quel est votre avis par rapport à ça?
Bah, vous avez des convictions, à l'évidence, très argumentées, donc je les respecte, hein, même si je ne les partage pas forcément loin de là. Vous savez, la Libye, je ne sais pas si vous y avez passé du temps, mais c'était pas brillant. Mais pas brillant du tout. Je ne citerai qu'une chose, hein, parce qu'il y a les chiffres et puis il y a la réalité. Vous avez, 6 millions de Libyens. Vous en aviez 1 million tous les ans en Tunisie qui venaient se faire soigner. Parce que cette Libye dont vous chantez les louanges et les progrès était incapable. On l'a vu avec la tragédie du sida à Benghazi, de fournir un système non seulement hospitalier, mais médical digne de ce nom à sa population, alors qu'elle était assise sur des richesses colossales. Alors après, ce que vous dites sur les... Je ne vois pas, moi, de traduction... Mais de toute façon, moi, même l'invasion américaine en Irak, j'y vois pas des motivations pétrolières. Donc, je ne veux pas... Mais, parce que c'est pas... C'est pas comme ça que je lis l'histoire. Et très souvent, on voit que des... Alors, on peut trouver, hein, des arguments pour des approches économistes, hein, mais c'est rarement univoque. Hein. Et en l'espèce, en Libye, mais je voulais pas y revenir, il est évident que si Kadhafi était resté au pouvoir... Il se serait retourné contre la révolution tunisienne. Hein? Parce que cette contestation, d'abord, il était très proche de Ben Ali, beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Hein? Et il y avait déjà une cinquième colonne qui se mettait en place en Libye pour aller déstabiliser la Tunisie, hein? Avec les gens de la garde présidentielle qui avaient trouvé refuge. Et les Égyptiens aussi étaient très inquiets. Parce qu'ils connaissent leur Kadhafi, de ce qu'il aurait pu pêcher en eau trouble, il ne serait pas arrivé à déstabiliser l'Égypte, mais il aurait pu faire beaucoup de mal aussi. Donc ça va au-delà. Et je pense, mais c'est ma conviction, hein, je vous la livre telle quelle, que ce qui s'est fait en mars, enfin à partir du 19 mars, est tout à l'honneur de notre pays, qui à un moment, il y a des moments comme ça où l'histoire peut basculer. Moi, je préfère ne pas imaginer ce qui se serait passé si Benghazi avait été prise et écrasée. Hein? Non seulement en Libye, mais dans le reste. Et ça aurait très clairement... c'est pour ça que j'ai décrit cette dialectique. Parce que les mouvements, ils ont leur dynamique propre. Mais on voit bien que ce qui se passe dans un pays en termes de percée, hein, encourage les autres. Même s'il n'y a pas de lien direct. Hein. Et on verra que demain, la révolution syrienne relancera la mobilisation révolutionnaire dans le monde arabe. Mais les Syriens ont, dans leur tragédie,
la chance d'avoir, par rapport à la Libye, hein, toute une expérience politique, une foison de cadres et tout, qui fait que ils peuvent se permettre, c'est terrible ce que je dis, ils ont les capacités, tout simplement, les capacités humaines, organisationnelles, politiques, de tenir bon sans basculer dans la guerre civile, alors que les Libyens n'avaient pas le choix. Les Libyens, la cause pouvait être entendue bon, je dirais pas en quelques jours, mais en quelques semaines. On pouvait avoir vraiment les craintes. Tandis que là, ça va être horrible, il va encore rebombarder Homs, et puis après il va revenir à Hama. Mais on le voit, Deraa, la ville de Deraa, d'où est partie la révolution, a été déjà occupée, je ne sais plus, trois fois. Alors, la première fois, les gens sont ressortis dans la rue le lendemain du départ de l'armée. À chaque fois, c'est plus lent. Mais il y a une capacité qui, en Libye, n'aurait pas pu être trouvée, d'où le choix des armes. Vous avez entendu ce que j'ai dit sur les milices, hein. Je ne me fais pas d'illusions particulières sur l'adhésion des milices de Zinten et d'ailleurs à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. Donc il faut à tout prix, qu'elles soient désarmées. Il en va de l'avenir de la Libye nouvelle, bien avant la question islamiste et autres. Hein. Ça c'est la condition nécessaire.
Voilà. Je pense qu'on pourra prendre encore que trois questions très courtes, avec des réponses aussi. Donc
je suis quand même assez interpellé que le Georges Pompidou fasse de la propagande pour la guerre. En Iran. Voilà, on vous a choisi parce que vous avez la pensée de tous les médias, de tout le système impérialiste qui veut que là-bas, c'est pas bien, c'est pas beau, il y a une dictature et ici, c'est mieux. Donc, j'espère que vous le savez, mais on se sert de vous et ici, on fait un conditionnement de masse pour nous dire que là-bas, c'est pas bien. Printemps arabe. Et voilà comment on va coloniser un peuple, ça s'appelle de la colonisation. Et on nous dit, oh, c'est pas bien, il y a des gens qui meurent, que papa. Mais c'est, dans tout pays, ça va pas, il y a des choses qui vont pas. Ici, c'est pas mieux. Pour moi, on est dans une dictature, mais ça se voit pas. Psychique. Est-ce que c'est mieux une dictature psychique que physique? Voilà, je sais pas.
Moi, je sais.
Bonsoir, merci pour votre clarté déjà. Je voudrais poser une question un petit peu plus... Vous avez dit Bachar al-Assad va tomber, je voudrais savoir comment et peut-être dans combien de temps. C'est peut-être une question un petit peu plus calme.
J'avais une dernière question là, normalement, mais bon, on va tout grouper et puis...
D'accord, merci. Bonsoir, moi j'ai une question par rapport à cette représentation traditionnelle, vous l'avez évoquée, qui est associé au leader, avec celle du père de famille. Alors, il y a un point commun entre la guerre en Irak et la guerre en Libye, ce sont ces images des deux dictateurs, où on voit dans un cas Saddam exécuté, dans l'autre Kadhafi lynché par sa population. Et je pense que dans ces sociétés, ça doit avoir un impact sur leur imaginaire et au niveau de leur représentation de l'autorité du père de famille. C'est très choquant, sans doute, pour eux, de voir ces dirigeants qui, jusqu'ici, étaient toujours représentés de la manière la plus glorifiante possible, tout d'un coup être traités moins que des chiens. Et je voulais savoir si dans ces révolutions, est-ce qu'on assiste aussi à des mouvements de remise en cause au niveau juridique, au niveau du droit de la famille par exemple, de l'autorité des pères de famille? Est-ce qu'on peut parler vraiment de révolte des fils contre les pères?
Et puis la toute dernière question, pardon.
Bonsoir. Moi, j'ai plutôt des remarques parce que quand on parle de la révolution arabe, c'est-à-dire, on est en train de dire qu'il y a des pays où on les appelle par un mot arabe, alors qu'on sait que peut-être que le point d'intersection entre ces pays-là, c'est que peut-être ils parlent la même langue arabe. Mais on sait bien que ces pays-là, ils sont bien différents. Chaque pays a sa propre culture, a sa propre éducation, a sa propre façon de gérer son pays, etc. Et donc, bref. Donc, on sait le premier pays, il a fait une révolution. Peut-être qu'ils avaient raison, comme la Tunisie. Le deuxième pays, la Libye, etc. Et puis après, tout le monde maintenant, il dit, voilà, un printemps arabe. Alors qu'on sait que c'est pas parce que le premier pays qui parle la langue arabe, il a fait une révolution, c'est que les autres pays, ils doivent faire pareil. Je donne un exemple, par exemple le Maroc. Vous avez parlé au début du Maroc, vous avez dit une révolution. Alors qu'on sait bien que le Maroc, il n'a connu aucune révolution. Et il y avait bien des manifestations, et c'est certainement, il y a une grande différence entre manifestation et révolution. Le Maroc, il a connu des manifestations, les gens... Ils n'avaient pas besoin de passer une révolution, donc il y avait bien un bon accord entre le roi et son peuple, et donc après ils ont décidé un chef d'État. Donc il n'y avait aucune révolution au Maroc, alors qu'aujourd'hui tout ce qu'on sait, un printemps arabe. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est juste un mot qui... Et le pire, c'est que c'est un mot qui est en train de motiver des gens pour faire des agressions qui n'ont aucune raison. Juste, il y a maintenant des gens qui ne sont pas éduqués, ben juste le fait qu'ils sont en train de voir, ah oui, la Tunisie, c'est bon, il a fait une révolution, ah bon, moi aussi, je veux faire une révolution pour avancer. Alors que ces gens-là, ils n'ont pas fait d'éducation, ils n'ont aucun diplôme, et donc maintenant, ils veulent, voilà, tout ce qu'ils voient, voilà, c'est bon, moi, je vais faire une révolution pour que l'État me donne quelque chose. Donc voilà, on sait bien que ça, c'est pas possible. C'est pas possible, donc c'est vraiment, il y a des gens... Bon, je vous remercie.
Très bien, donc nous sommes à ce moment qui est toujours extrêmement, qui est un grand défi quand on a fait une conférence, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire depuis le début qui a fait que ça n'est pas passé. Non, excusez-moi, vous avez posé votre question, hein, le principe du débat, moi je vous respecte par définition, donc maintenant vous écoutez. Sinon, c'est pas du jeu, hein. Moi je pense que j'ai au-delà même du raisonnable pour certains, insister sur l'aspect national de libération. Voilà. Bah écoutez-moi quand même, parce que j'essaie de vous répondre. Oui. L'aspect national de libération nationale de ces mouvements, hein, qui est au cœur. Et non, personne ne va leur dire ce qui est bien pour eux ou ce qui n'est pas bien pour eux. C'est eux et eux seuls qui vont définir leur programme, leur calendrier et jusqu'où ils voudront aller. Et madame ou mademoiselle, j'ai dit d'emblée que je mettais la révolution au singulier en écho à la Nahda, mais que je disais bien qu'il n'y aurait pas des révolutions partout. Et le cas du Maroc est tout à fait clair, parce que dans ces cas-là, on a eu un chef d'État qui a voulu anticiper. Hein. Donc il y a eu le mouvement du 20 février... Il y a eu son discours le 9 mars, et donc le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution qui passe au référendum le 1er juillet et qui fournit le cadre des élections de l'automne dernier. Mais dans la Narda, qui est une, il y a des déclinaisons pays par pays. La Narda n'était pas la même en Tunisie et en Égypte, elle n'était pas la même au Liban et en Algérie. Mais les Arabes eux-mêmes disent la Narda, ils ne disent pas les Narda. Et comme historien, il faut qualifier... Alors, j'utilise pas printemps, moi. Je ne dis pas ni printemps, ni été, ni automne, ni hiver, ni quoi que ce soit. Mais révolution pour qualifier ce qui est une dynamique révolutionnaire portée par une génération dans l'ensemble du monde arabe, mais aussi pour dire que, et ça me permet de faire le lien avec la question sur le père, c'est que c'est pas uniquement la question du pouvoir politique au centre qui est posée. Des jours de colère, Yom el-Radab, il y en a eu donc sur la place Tahrir, il y en aura encore d'autres. Mais il y a des jours de colère dans les organisations, dans les partis, dans les syndicats. Il y en a même, on appelle pas ça des jours de colère, dans les tribus, parce qu'ils veulent changer la représentation. Donc on est face à une contestation du modèle dominant, du modèle patriarcal, qui évidemment, et la question n'a été posée qu'indirectement, ne peut être complètement, ne donner toutes ses potentialités que si la dimension féminine de cette révolution est totalement assumée. On sait que les femmes ont été très actives partout, mais on les voit aujourd'hui plutôt en position défensive, notamment en Tunisie, face aux acquis, hein, plutôt qu'en position de proposition ou d'initiative, parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'elles ont justement une dynamique qui les porte vers cela. Or, on ne pourra avoir de pleine... Parce que si effectivement la composition démographique a cet impact sur la remise en cause de la culture patriarcale, elle devra automatiquement prendre en compte le fait que, à des titres divers, hein, on a partout la place des femmes sur le marché du travail, dans l'éducation supérieure, dans etc., etc., doit avoir sa traduction, hein, politique. Et c'est aussi un des enjeux de cette révolution. Alors pour Bachar al-Assad, ben, j'aimerais bien pouvoir vous répondre, vous imaginez bien que je ne peux pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si on m'appelle maintenant pour me dire il est tombé, je ne serai pas outre mesure surpris. Mais que ça peut encore durer. Et que là-dessus, on ne peut pas savoir. Et les Syriens eux-mêmes ne savent pas et se gardent de toute prévision. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le double veto russe et chinois au Conseil de sécurité a prolongé, je ne sais pas de combien, mais la tragédie du peuple syrien. Et que cela ne sera pas oublié par les peuples concernés. Voilà. Merci beaucoup.
Jean-Pierre Filliu et d'autres intervenants ou penseurs sur la question des révoltes arabes, vous pouvez d'une part consulter sur le site bpi.fr le dossier documentaire qui a été réalisé à cet égard. Vous pouvez également prendre une bibliographie qui est située sur une table haute à côté du bureau de renseignement de philosophie avec un éventail pluraliste de documents sur la question. Merci à vous et merci à Jean-Pierre Filliu encore une fois.